rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de rencontre avec les évêques de notre région. Et pendant ce mois de juin, nous sommes accompagnés par Mgr Fonlieu. Bonjour Mgr.
Bonjour.
Vous êtes évêque de Rodez. Rodez et
Vabre.
Et Vabre. Rodez et Vabre. souvent, les évêques de la région ont plusieurs comme ça, non? Et des anciens évêchés, n'est-ce pas, qui ont disparu. En Aveyron, en tout cas. Et donc, la semaine dernière, nous avons évoqué avec vous le lancement, le jour de la Pentecôte, de cette année de l'Esprit-Saint, il y a quelques jours. Vous nous avez expliqué pourquoi cette année de l'Esprit-Saint, vous nous avez expliqué les outils que vous avez mis en œuvre, cette volonté que les gens, cet appel à la confirmation, cette icône qui tourne dans les paroisses. Et vous avez aussi imaginé rythmer cette année avec sept temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, simplement, il y a une équipe qui a travaillé depuis de longues semaines, hein, que je tiens à remercier, parce que ces choses-là ne surgissent pas du jour au lendemain, et qui a pensé qu'une des meilleures manières de nous laisser animer par l'Esprit, c'est aussi de rentrer un peu plus profondément dans la liturgie. Et donc, qui fait des propositions pour qu'à chaque étape un peu importante de l'année liturgique, on puisse les vivre en étant attentif, plus particulièrement à cette place de l'Esprit.
Ah, oui, d'accord.
Donc ça va être...
Ça s'inscrit dans les temps liturgiques, c'est pas voilà. Des cérémonies en plus.
Non. Mm-hmm. Mais donc c'est déjà médité au départ sur la place de l'Esprit dans la création. Mm-hmm. En début d'année, il y aura des propositions autour de ça. Puis après, il y aura l'Esprit qui fait de nous des saints. La fête de la Toussaint, mm-hmm. Découvrir comment on n'est pas saint à la force du poignet, mais on est saint en se laissant transformer par celui qui nous rejoint et qui nous anime. Il y aura ensuite le temps de l'Avent, avec en particulier le mystère de l'Annonciation, se laisser rejoindre par une parole qui nous est adressée et qui nous appelle. Le temps de Noël et de la famille. Puis le temps ordinaire, qui est aussi le temps où de manière moins exceptionnelle, mais pas moins profonde, on se laisse habiter quotidiennement et chaque dimanche par cette parole qui nous est adressée. Puis le temps du carême et le temps pascal, vous voyez. Donc chaque temps va être rythmé par, il y aura des petites fiches qui vont être diffusées progressivement, qui proposeront des textes, qui proposeront des temps de partage, puisque tout ça peut se suivre dans des petites équipes qui se rassemblent pour échanger, pour partager, pour prier. Et puis qui proposeront aussi des soutiens à travers des textes ou des œuvres d'art qui invitent aussi à la méditation et où une lecture de ces œuvres sera proposée. Voilà, donc c'est... Vous voyez, c'est pas forcément faire plus que ce qu'est le rythme habituel de notre vie chrétienne, mais c'est prendre le temps de l'habiter par cette attention-là à la présence et à l'action de l'Esprit au cœur de la liturgie, au cœur de la vie de l'Église et au cœur de nos propres vies.
Alors pour les auditeurs qui ne sont pas du diocèse de l'Aveyron et qui trouvent que c'est une bonne idée de rythmer cette année aussi et d'appuyer ces moments liturgiques de la main de l'Esprit, pourront retrouver ces fiches sur votre site internet, je suppose.
Ah, tout à fait, oui, le site internet diocèse de Rodez.
Diocèse de Rodez, donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas dans l'Aveyron, et bien voilà, vous pouvez vous inspirer de cette démarche.
Il y a un dossier là-dessus qui permet de retrouver progressivement tout ça.
Très bien. Très bien, donc c'est une magnifique initiative. Vous avez aussi, en début d'année, proposé à aux habitants du diocèse de l'Aveyron un autre outil, qui, c'est vrai, s'appuie aussi sur la question de l'Esprit-Saint, mais va au-delà. Donc il s'agit d'une lettre pastorale. Vous n'en faites pas tous les jours des lettres pastorales.
Non. En 10 ans, j'en ai fait 2.
Voilà. Donc c'est un moment important pour vous.
Oui, tout à fait. C'est prendre le temps de poser dans une lettre assez développée quand même, c'est prendre le temps de poser un peu un message particulier ou une parole qu'on essaie de préciser, de déployer pour la partager avec ceux qui nous sont confiés.
Alors la parole, c'est revenir à la source de notre baptême et nous laisser guider par l'Esprit-Saint. Donc on est vraiment dans la droite ligne de ce que vous nous avez présenté.
Oui, mais ça, c'est le sous-titre. Et le titre, c'est cette citation de l'Évangile de Jean qu'on trouve dans le dialogue de Jésus avec ses apôtres auprès du puits de Jacob, dispute, Sichar, avec la Samaritaine, après cette rencontre avec la Samaritaine, et où il leur dit, regardez les, levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson. Quoi. Donc vous voyez, c'est une invitation à...
À la moisson.
À clarifier notre regard, à céder à voir ce que parfois on peut ne pas voir, et qui est effectivement quelque chose à recueillir, quelque chose à glaner, quelque chose à accueillir. Quoi. Voilà, et c'est autour de ça une réflexion sur la mission, hein, c'est-à-dire comment on peut aujourd'hui, dans la vie qui est la nôtre et dans l'évolution aussi de la réalité de l'Église, concevoir un peu la mission. Vous voyez, cet aspect de la mission, il a beaucoup changé. Alors, on ne va pas faire l'histoire de la mission, là, on n'en a pas le temps. Non. Mais il a en tout cas beaucoup changé par rapport à des périodes où l'Église était tellement présente que la mission, c'était se renouveler, quoi.
Hein, c'était simplement faire nos actes de chrétiens.
Voilà, et puis introduire d'autres dans cette activité-là.
Et qu'aujourd'hui, voilà. Il faut sortir.
Mais attendez, est-ce qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins nombreux? Il faut sortir, mais quand on dit il faut sortir, il faut aussi arriver à préciser un petit peu ce que ça peut vouloir signifier. Il faut aller rejoindre d'autres. Et puis de quelle manière? Est-ce que c'est pour annoncer fortement? Est-ce que c'est pour accompagner? Quelle est la bonne manière de rejoindre pour que est-ce qu'il n'y a qu'une bonne manière, bien sûr. Mais pour que les personnes perçoivent ce qui nous habite et que ce qui nous habite peut les concerner, quoi. Donc c'est un petit peu ça que j'ai essayé de réfléchir. Je l'avais d'abord réfléchi en proposant en conférence, et puis on m'a un peu invité à le mettre par écrit ensuite.
Comment est-ce qu'elle est organisée alors, cette classe pastorale? Qu'est-ce que vous avez mis de... Comment est-ce que vous l'avez organisée?
Comment vous répondre à ça?
Il y a plusieurs thématiques. Vous avez déjà vous nous amenez à réfléchir sur ce que c'est que la mission aujourd'hui. Oui. C'est tous les premiers chapitres. Oui. Qu'est-ce que c'est que la mission aujourd'hui? Parce que vous dites qu'effectivement elle a évolué, puis aussi parce qu'on vit un contexte très particulier. Ce temps de crise aujourd'hui nous amène vraiment à nous interroger sur comment être chrétien dehors, comment être.
Oui, et puis le temps de la crise nous fragilise sur beaucoup d'aspects. Humainement, psychologiquement, et dans des éléments solides aussi. Vous voyez, en fait, notre Église éprouve de multiples manières combien elle est fragilisée. Hein. Et donc, quand je dis des éléments solides, c'est des éléments qui sont éprouvés, justement. Oui. Et donc, c'est de se dire, mais comment comprendre que des transformations que nous vivons ou que peut-être nous subissons ne remettent pas en cause pour autant le don qui nous est fait et l'appel à en vivre qui nous est adressé, quoi. Il n'est pas dit que l'Église doit rester une puissance installée. Hein. En tout cas, ce n'est pas ce qu'elle devient aujourd'hui. Mais par contre, il nous est redit que l'Église est dépositaire d'un trésor, hein, qui est de découvrir cet amour fantastique que Dieu porte à chaque personne, d'en faire l'expérience pour soi-même, hein, de l'accueillir pour soi-même, et du coup, parce qu'on l'accueille pour soi, de se découvrir aussi appelé à le partager à d'autres. Quoi, hein. Voilà. Donc c'est vrai que je reprends, je réutilise cette expression qui vient du père Christophe Théobald, où il nous parle de l'Évangile comme d'une bonne nouvelle. Vous voyez, mais quand on dit bonne nouvelle, c'est une traduction en français du mot
banalement, hein. Je dirais, voilà. Peut-être, mais au-delà.
Et lui il en parle en termes de l'Évangile, c'est une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle, et annoncé dans la vie quotidienne des gens. Une bonté radicale, quelque chose une bonté qui nous surprend, qui nous étonne, et puis qui est sans condition, quoi. Dieu nous aime, et c'est pas, il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de préavis, ça ne se mérite pas. Et c'est un don qui nous est fait, qui ne nous est pas fait à côté de notre vie, ou ailleurs, ou dans des lieux particuliers, qui n'est fait au cœur même de notre vie, et au cœur même de notre vie quotidienne, avec ses joies, avec ses soucis, avec ses angoisses, avec ses passions, avec ses convictions. Voilà. Mais il s'agit d'accueillir que dans notre aventure humaine, qui est de se construire personnellement, qui est de s'engager dans une activité professionnelle, qui est de construire une famille, qui est d'accueillir des enfants, qui est d'aimer, qui est parfois de se séparer, qui est d'éprouver des blessures ou d'être malade. Enfin, vous voyez, la multiplicité des situations que peuvent connaître toutes nos existences. Eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est croire que notre existence, quelles que soient les étapes qu'elle traverse, est animée par cette bonté radicale. Et que ça, c'est sans condition. Dieu ne nous demande pas de mériter son amour. Il nous révèle que nous sommes aimés. Et accueillir cela, si on en prend vraiment la mesure, mais quand est-ce qu'on en prendrait vraiment la mesure ?
On n'a qu'une envie, c'est que ça se sache.
Mais on peut pas ne pas le rayonner, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, ça appelle aussi une manière de le rayonner qui soit une attitude. C'est-à-dire que comment annoncer un amour sans condition, si ce n'est rejoindre les gens en s'attachant à les aimer sans condition ? Oui. De trouver une bonne manière, pas d'abord pour leur apporter un message, pas d'abord pour leur faire comprendre quelque chose, pas d'abord pour leur imposer tel ou tel aspect, mais les rejoindre et leur signifier qu'on les aime, quoi. Mmh. Et qu'à travers l'amour qu'on leur manifeste, eh bien, c'est l'amour de Dieu qu'on espère leur refléter, ou que peut-être Dieu lui-même leur reflète à travers les uns et les autres, quoi. Donc ça veut dire, vous voyez, ça appelle une espèce de gratuité, de qualité de présence, je reprends aussi beaucoup je réfléchis beaucoup autour de la question de l'hospitalité, oui. dans la manière d'aller rejoindre, oui. dans la majorité d'être l'hospitalité, pas simplement comme nous être capable d'accueillir, parce que je sais qu'il faut accueillir, mais aussi dans la manière de me laisser accueillir par d'autres, pour que dans la rencontre avec l'autre, ça soit bien dans ce qu'est la vie de l'autre que la bonne nouvelle de cette bonté radicale soit proposée, quoi. Vous voyez, si je peux prolonger un tout petit peu, le jour de la Pentecôte, oui. L'annonce du don de l'Esprit fait que tous ceux qui sont à Jérusalem entendent les merveilles de Dieu annoncées dans leur propre langue. Mmh. Et il me semble que souvent, on risque, nous, de faire un court-circuit en se disant, je connais les merveilles de Dieu, j'ai un catéchisme qui me dit plein de choses sur les merveilles de Dieu, donc j'ai du vocabulaire pour en parler, mais je risque de ne pas savoir en parler dans la langue de l'autre. Ouais. Et donc tout ce travail d'abord un peu d'abandon de tout ce qui est ma propre langue à moi pour entrer dans la culture, dans l'histoire, dans la sensibilité, dans la langue de l'autre, et être suffisamment proche de tout ça pour que ce que je peux avoir à lui transmettre de l'amour de Dieu ou accueillir avec lui l'amour de Dieu soit présent, vous voyez, ça demande un vrai travail de dépossession et de liberté qui me paraît très important, quoi.
Et c'est à ce travail que vous nous appelez au travers de cet théâtre pastoral. Nous reviendrons encore dessus la semaine prochaine parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dedans. Merci beaucoup, Monseigneur.
Merci.
Rencontre avec nos évêques.